Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Comme l'écrivait ce bon vieux Machiavel, les hommes sont si aveugles, si entraînés par le besoin du moment qu'un trompeur trouve toujours quelqu'un qui se laisse tromper. Et ce matin, nous allons vous aider à faire face aux trompeurs, aux manipulateurs. Nous sommes évidemment manipulés du matin au soir. Il peut s'agir de manipulations douces sans intention de nuire, quand on nous incite à adopter un comportement positif par exemple. Mais cela peut être également une manipulation négative, toxique, qui nous pousse à faire des choses que nous n'aurions pas faites en connaissance de cause. Vous verrez ce matin comment se déroule un scénario manipulateur, quels sont les indices qui permettent de comprendre qu'une relation prend une mauvaise tournure, comment repérer les manipulateurs, comment sortir du piège tendu. Y a-t-il des indices qui montrent que nous sommes plus manipulables que les autres? Enfin, comment s'affirmer et reprendre les rênes dans cette relation déséquilibrée? Bref, je vous invite à mieux comprendre les mécanismes de la manipulation pour mieux la détecter. Nos experts répondront à vos questions au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Marie-Laure Sunshine.
Bonjour Ali.
Chef du service actualité à Femme Actuelle, et vous allez tenter de manipuler nos invités avec vos questions.
Écoutez, je ne sais pas, en tout cas je crois qu'on va jouer au Colombo et apprendre à mener une enquête positive.
Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Écrivain et psychiatre, quel est le menu de vos choses vues?
Manipulare humanum est, persévérare in manipulation. Diabolique. Voilà le programme.
Bienvenue dans Grand Mère vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Hey, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Ah, à ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Oh, oh, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
Le renard de la fable, archétype du manipulateur rusé. Vous avez peut-être reconnu la voix de Louis de Funès. Bonjour Odile Darbon.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre et psychothérapeute. Bonjour Frédéric Franger.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre, psychothérapeute, enseignant dans différentes universités, et vous publiez ensemble chez Odile Jacob Affirmez-vous face aux manipulateurs. Alors votre livre, c'est un guide très pratique, très intéressant pour reconnaître et déjouer les scénarios de manipulation. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la manipulation selon votre expérience clinique, Odile Darbon?
La manipulation, ça peut être un comportement, parce qu'il existe quatre grands types de comportements. Donc un comportement peut être manipulateur. Un comportement manipulateur, c'est un comportement par lequel quelqu'un ou un système essaye de prendre le contrôle sur quelqu'un d'autre, ni par la peur, ce qui serait agressif ou l'intimidation, mais plutôt par la ruse, et ni non plus par le respect de l'autre. C'est-à-dire qu'on prend pas le dessus par, on prend le dessus par un mensonge, une ruse, voilà. Mais la manipulation, je pense que les comportements manipulateurs, on en a tous tout le temps, et on va pas réfléchir tout le temps à comment se débrouiller dans la vie, mais la succession de comportements manipulateurs peut engendrer une relation manipulatrice, et là c'est bien plus embêtant, parce que là c'est une personne qui prend le dessus durablement sur une autre.
Frédéric Fanger.
Oui, en fait, il faut bien comprendre que ces comportements manipulateurs dépassent largement le concept de perversion narcissique qui avait enfermé un peu ces comportements dans des personnes en fait assez toxiques quand même, parce que je crois que nous avons tous été, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous Ali aujourd'hui, manipulateurs dans la semaine qui vient de s'écouler, très probablement, et nous avons probablement tous été manipulés. Donc en fait, cette émission concerne tout le monde.
Et qu'est-ce qui caractérise selon vous une relation manipulatrice? Est-ce que ça se caractérise par le fait qu'une personne tente d'en dominer une autre sans que cela se devine?
C'est ça, l'idée, c'est ça. C'est ça le problème. Mmh. C'est-à-dire que le manipulé est, ne se rend pas toujours compte qu'il est manipulé ou s'en rend compte très tard. C'est ce que témoignent nos patients qui arrivent après des années de manipulation.
Mmh. Et la manipulation n'est pas mauvaise en soi. On peut manipuler quelqu'un dans le but de lui faire adopter un comportement positif. C'est souvent le cas quand on souhaite qu'un enfant fasse quelque chose ou s'abstienne de faire quelque chose.
Je suis d'accord avec le concept de manipulation positive tel que vous venez de l'écrire chez l'enfant. Je suis un peu moins d'accord chez l'adulte parce que ça me pose un problème éthique. Mmh. Et je ne pense pas qu'on puisse décrire une manipulation comme positive uniquement parce que l'intentionnalité du manipulateur est positive. Il faut quand même demander l'avis du manipulé et savoir si lui, il avait envie d'être manipulé.
Odile Darbon, vous êtes d'accord avec ça ?
Je pense que dans notre vie, on attend tous un peu des surprises. On attend que quelque chose arrive qui n'était pas prévu. Donc, on peut finalement avoir une bonne surprise parce qu'on a été conduit là où on ne voulait pas aller. Et là où on n'aurait pas été tout seul. Donc, il y a peut-être un bon côté de la manipulation. D'ailleurs, si ce comportement s'est maintenu à travers les âges, c'est bien qu'il a quelque chose de positif. Donc, je pense que ça peut être bon à court terme, à moyen terme, mais à long terme, le fait d'être conduit régulièrement là où on veut pas aller, même si au passage il y a eu quelques bonnes surprises, je pense que ça ne va plus au long cours.
Alors la manipulation touche tous les domaines de notre existence, qu'il s'agisse de nos relations les plus superficielles, avec des inconnus par exemple, aux plus profondes, avec un conjoint, un collègue de travail, un supérieur hiérarchique.
Et c'est là que ça pose problème. Parce que même si la toxicité est faible, parce que comme je disais tout à l'heure, on n'a pas affaire à quelqu'un de très pathologique, on a affaire à monsieur ou madame tout le monde qui manipule, ou en le sachant ou sans le savoir d'ailleurs, c'est la répétition des petites manipulations quotidiennes. Et surtout, Alice, ce qui me paraît important, c'est de bien cibler la manipulation comme un comportement, comme Odile l'a bien expliqué au début, c'est-à-dire, c'est pas une personnalité. Mmh. Et donc, la question, c'est est-ce que la personne qui nous manipule va être capable d'avoir d'autres comportements, comme le comportement affirmé qu'elle a décrit tout à l'heure, et qui va nous permettre d'avoir une relation plus équilibrée.
Alors, en lisant votre livre, je me suis dit, tu ne feras plus de compliments à quiconque de peur de passer pour un horrible manipulateur. Oui. Parce qu'un scénario manipulateur, ça commence toujours de façon positive, avec des compliments, des flatteries, des promesses.
Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que le but du jeu sera d'assez vite repérer si ces compliments, ces flatteries ont une chance de pouvoir avoir une traduction dans la réalité, si c'est adapté au contexte, si ces compliments semblent avoir un rapport avec nous-mêmes, ou si c'est une grande généralité qui pourrait être appliquée à tout le monde. Donc on aura peut-être intérêt à essayer de faire rapidement préciser les choses et savoir pourquoi nous sommes une personne si merveilleuse que ça. Pourquoi nous sommes voués à avoir une si grande carrière que ça dans cette entreprise? Qu'est-ce qui fait dire qu'on pourrait être cette personne, cet élu? Voilà.
Et vous verrez tout à l'heure comment distinguer un compliment sincère d'un compliment manipulateur. Question de Marie-Laure Zonshine, la femme actuelle.
Oui, vous évoquez tous les deux dans votre ouvrage la question du repérage. Comment savoir si j'ai face à moi quelqu'un qui me manipule? Il y a des indices verbaux, des indices non-verbaux, et je trouvais très intéressant parmi l'un de ceux-là, peut-être est-il infaillible, vous allez nous le dire, c'est la bonne distance, c'est cet espace physique que le manipulateur prend d'emblée, le fait de se tenir très proche de sa cible, d'une certaine façon d'occuper le terrain, comme pour l'envelopper de son emprise dès le début.
Oui, mais je pense que c'est tout est là, c'est-à-dire qu'au fond, je pense qu'on rêve tous tellement d'être protégés, aimés, compris, soutenus, qu'on a un peu cette bonne surprise de dire « enfin quelqu'un qui est près de moi, qui va s'occuper de moi, qui me comprend ». Donc on attend ça en fait, on risque d'attendre ça, à moins d'être un paranoïaque. si on n'est pas paranoïaque, on va attendre ça. Et du coup, on ne réalise pas que non, au début d'une relation, il n'y a pas de raison qu'on laisse entrer dans notre espace, de la même façon qu'on ne laisse pas entrer dans notre espace physique quelqu'un dans notre espace physique quelqu'un, il n'y a pas de raison qu'on laisse rentrer dans notre intimité un voisin. Pourquoi cet ami deviendrait tout d'un coup envahissant? Pourquoi ce collègue de travail veut tout savoir de nous tout d'un coup? Pourquoi cette rencontre d'un soir? Pourquoi il m'envahit tout d'un coup de textos, et etc.
Alors la manipulation provoque souvent des dégâts sur le plan psychologique, avec des conséquences sur la confiance en soi, l'estime de soi, le risque de ressentir de la méfiance vis-à-vis des nouvelles relations. Quand on a été manipulé par un ami, un conjoint, un collègue de travail, un inconnu, on peut se demander « pourquoi moi ? Y a-t-il quelque chose en moi qui me rendrait plus facilement manipulable ?» Et cette question peut affecter l'estime de soi, la confiance en soi.
Complètement, et puis c'est une question qui nous est rapportée avec une culpabilité énorme des personnes manipulées dès qu'ils arrivent dans notre bureau en disant « mais c'est de ma faute ». Donc ça, nous, bien sûr, nous nous insurgeons contre cette conception et nous pensons qu'il est important pour dépister ce début de manipulation et pour bien repérer les choses, non seulement de s'intéresser au comportement du manipulateur qui est en face, comme on vient de le dire, à sa distance, ou aux messages qu'il nous envoie, qui sont souvent des messages flous, ou des messages qui portent sur la personne et non pas sur nous. Mais moi, je voudrais attirer l'attention de l'auditeur sur le fait que, pour dépister vraiment la manipulation, il y a trois domaines. Il y a ce qu'on vient de dire, quel est le comportement du manipulateur, mais il y a qu'est-ce que je ressens en moi, ce à quoi vous faites référence, Ali. C'est-à-dire qu'on ressent une espèce de confusion, on ressent ce que j'appelle le yo-yo émotionnel, c'est-à-dire qu'après la phase d'immense joie, d'immense espoir que Odile vient de décrire lors de la rencontre, vous allez tout d'un coup tomber de haut, parce que vous allez être sidéré par une attitude du manipulateur qui va plus du tout être empathique, mais qui va tout d'un coup nous emmener vers une défiance absolue. D'ailleurs, je préfère le mot vigilance au mot méfiance, pour éviter que les gens, effectivement, s'enferment dans un isolement par peur de retomber sur la manipulation. Donc la deuxième chose, c'est essayer de repérer en vous vos émotions, ce que vous vivez face à quelqu'un. Et la troisième chose, c'est d'analyser la relation. Hein. Le manipulateur manipulé et la relation entre les deux. Parce qu'au fil du temps, lorsque cette relation va se dérouler, on va sentir un déséquilibre un petit peu permanent, avec quand même une tendance du manipulateur à être dans la domination et une tendance du manipulé à se retrouver dominé.
Christophe André, revenons à l'estime de soi. Pourquoi est-ce que ça affecte autant la confiance en soi, l'estime de soi, la manipulation ?
C'est la manipulation répétée, c'est-à-dire être manipulé occasionnellement, effectivement. Bon, on se dit, voilà, je me suis un peu fait avoir, mais ça ne nous déstabilise pas profondément. La manipulation répétée, elle va s'accompagner notamment au moment de la rupture, c'est-à-dire lorsque je vais m'apercevoir que j'ai été manipulé, je vais tenter de me dégager de ce qui est quand même une forme d'emprise. Et là, il va y avoir quand même des missiles qui vont m'être adressés par le manipulateur, qui va mettre le doigt sur mes failles, qui va me faire porter une grande partie de la responsabilité. Frédéric disait tout à l'heure qu'il ne faut pas se sentir coupable d'avoir été manipulé, mais il faut juste se demander qu'est-ce qui s'est passé. Et effectivement, l'atteinte sur l'estime de soi, c'est finalement, il y a deux choses centrales. D'abord, ben finalement, j'ai pas été assez lucide, j'ai pas été assez intelligent, j'ai pas été assez fort pour dépister ces histoires-là assez tôt. Ensuite, j'ai cru qu'on m'aimait, j'ai cru que j'avais des qualités, et finalement tout ça c'était des mensonges. Et du coup, il y a un effet de généralisation, de doute sur ma valeur, ce que je représente aux yeux des autres. C'est une onde de choc, la manipulation que ça peut entraîner durablement.
Allez, dans quelques instants, vous en saurez beaucoup plus sur le déroulement d'un scénario manipulateur. En attendant, on écoute Suzanne Vega, Tom's Diner.
Thank you. she does not really see me, 'cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. The morning, as I'm listening to the bells of the cathedral, I am thinking of your voice.
Suzanne Vega interprétée Tom Steiner.
Et maintenant, place. Flattez-moi.
Grand bien vous fasse.
Monseigneur est le plus grand de tous les grands d'Espagne. C'est pas une flatterie, ça. C'est vrai.
Sur France Inter.
Et il est 10h22. Comment s'affirmer face à un manipulateur? Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000 ou en laissant un message, une note vocale sur l'appli France Inter. Écoutons la redoutable manipulatrice Tati Daniel qui sait se montrer doucereuse à 16h.
Bonjour ma tante.
Oh, voilà les Parisiens.
Comment allez-vous, Tati Daniel?
Coussi-coussa, ma pauvre Catherine. Je suis bien vieille. Qui s'occupera de moi? Personne ne veut plus des vieilles femmes comme moi. Peut-être dans une maison de retraite. Mon Édouard aurait pas voulu ça.
Il paraît qu'il batte les vieux. Tati, ne vous inquiétez pas. On vous abandonnera jamais. Vous êtes notre seule famille.
La redoutable manipulatrice Tati Daniel. Alors, Odile Darbon, Frédéric Fanger, je rappelle que vous êtes psychiatre et que vous publiez chez Odile Jacob « Affirmez-vous face aux manipulateurs ». On a évoqué tout à l'heure la phase positive, idyllique, faite de compliments et de promesses. Vient ensuite une phase négative, faite de ruses à la manière du renard de la fable. La ruse est l'une des principales stratégies du comportement manipulateur. Les intentions malveillantes sont dissimulées, les besoins et les désirs ne sont pas clairement exprimé. Le manipulateur souhaite satisfaire ses besoins, quel que soit le prix à payer, grâce à la ruse.
Oui, grâce à la ruse, grâce à la dissimulation, grâce aussi à la faiblesse aussi du manipulé, qui finalement ne fait pas toujours préciser les intentions, ne réclame pas son dû lui-même, et laisse le manipulateur envahir le terrain. Donc le manipulateur, c'est quand même quelqu'un qui se débrouille pour continuer quelque chose qui est en train de réussir. Donc au fond, pourquoi ne pas continuer à être manipulateur quand ça marche?
Et puis la manipulation a pour but de nous enfermer dans une impasse qui offre au manipulé, entre guillemets, un choix insatisfaisant, Frédéric Fanger.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut bien concevoir que ce comportement manipulateur est une position d'une personne qui peut avoir d'autres positions et qui va manipuler une autre personne qui, elle, est dans une position de manipuler, mais qui pourrait être autre chose avec d'autres personnes que manipuler, et dans un certain contexte. On l'a pas encore dit, c'est important de voir le phénomène de la manipulation comme l'émission d'une position manipulatrice reçu par une position de manipulé dans un contexte. Ce que je veux dire par là, c'est que dans un autre contexte, le manipulateur ne va pas pouvoir manipuler, par exemple. On a des tas d'exemples au travail de ça. Il y a certains contextes dans lesquels on peut manipuler. Je crois que c'est important de le dire. Et du coup, nous, ce qu'on pense, plutôt que de figer les mots et les discours sur des manipulateurs qui seraient des grands méchants, et des manipulés qui seraient des grandes victimes, et puis les choses seraient acquises, du coup, il n'y a plus qu'à fuir, hein, si on raisonne comme ça. On pense qu'on peut faire modifier, en modifiant la position du manipulé dans le système. Si le manipulé rehausse sa position en s'affirmant, en prenant confiance en lui, comme le soulignait Christophe tout à l'heure, il va obliger le manipulateur à descendre de sa position de pouvoir et à revenir dans une relation équilibrée. De là, vous avez deux issues possibles. Soit ça se passe comme je viens de le dire, c'est la bonne issue, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ramener une position manipulatrice à une relation équilibrée. Et ça, je crois que c'est un peu nouveau dans notre ouvrage sur le thème. Et ça donne de l'espoir, je dirais. Soit, effectivement, parfois, et c'est vrai, on va tomber sur ce qui a été nommé comme des pervers narcissiques, qui sont peut-être des gens qui, eux, manquent trop d'empathie pour pouvoir s'intéresser à la personne manipulée en face et descendre leur position. Et là, du coup, il y aura rupture de la relation.
Beaucoup de questions qui vont dans ce sens-là. Quelle est la différence entre un manipulateur et un pervers narcissique?
Alors justement, nous, la notion de pervers narcissique, si vous voulez, elle a eu l'avantage énorme de mettre le thème sur la place publique, parce que les manipulés souffraient en silence. L'ennui de cette notion, en dehors du fait qu'elle n'est pas reconnue scientifiquement, et nous, comme nous sommes médecins psychiatres, nous sommes bien obligés de nous baser sur les évidences scientifiques, et d'autre part, elle fixe les choses, elle étiquette, elle fixe les choses, c'est-à-dire qu'on fait deux clans avec des manipulés qui peuvent pas être autrement que manipulés et des manipulateurs qui seraient pas autrement que manipulateurs. Donc on a préféré une conception plus dynamique, qui permet de plus s'adapter l'un à l'autre et d'avoir plus de, une position plus optimiste, je dirais.
Odile Darbon.
Oui, je pense aussi que il y a plusieurs façons d'être manipulateur. Il y a une façon, comme les psychopathes aussi, qui finalement sont, transgressent les règles très facilement, n'ont pas d'empathie, sont très impulsifs, et qui eux donc peuvent devenir, sur, pour peu qu'ils soient bien intelligents, vont être d'excellents manipulateurs. Bon, il y a cette façon-là. Mais on peut, un peu comme Tati Daniel aussi, peut-être être manipulateur, non pas parce qu'on manque d'empathie, mais parce qu'au contraire, finalement, on utilise nos bonnes valeurs apparentes pour manipuler. Hein. Donc, on n'est pas forcément là dans la perversion. On est dans « comme je suis une bonne maman, comme je me suis sacrifiée pour vous, donc vous ne pouvez pas abandonner le logis. Hein. Vous n'allez pas faire des études qui vous emmèneraient aussi loin du domicile, etc. »
Emmanuel nous demande, peut-on être un manipulateur sans le savoir ?
Alors, oui, complètement. Par exemple, si vous avez vécu dans une famille de manipulatrices où le premier comportement que vous avez appris, c'est la manipulation, ça peut vous paraître naturel et vous serez très surpris lorsqu'on vous dira que vous manipulez. La question, c'est si ce manipulateur, sans le savoir, est dans une relation manipulatrice, est-ce qu'en face, il aura quelqu'un qui va l'amener à le savoir ? Est-ce qu'il aura assez d'empathie pour écouter le mal qu'il fait à l'autre ? À ce moment-là, ça deviendra conscient pour lui, on pourra améliorer les choses.
Marie Lorzenstein, de Femme Actuelle.
Oui, Christophe, vous parliez tout à l'heure de la perte d'estime de soi. Alors, on va reprendre La Fontaine. Le corbeau jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Alors, est-ce vraiment le cas ? C'est-à-dire qu'un manipulé qui a véritablement le recul nécessaire, qui a pris conscience qu'il a été manipulé, ne le sera pas une seconde, voire une troisième fois ?
Oui, si il va plus loin que la simple prise de conscience. Vous avez raison, c'est le premier temps, la prise de conscience. Hein. Sans prise de conscience, on peut rien faire. Mais s'il apprend à s'affirmer, parce que les techniques que nous préconisons dans le livre, qui sont des techniques beaucoup d'affirmation de soi, nécessitent un certain apprentissage. C'est pas si facile de savoir dire non à certaines choses. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes dans une relation manipulatrice, il va falloir dire non aux positions manipulatrices du manipulateur. « Ah, quand tu te comportes comme ça, je supporte plus. » Là, je suis pas du tout d'accord. Par contre, renforcer tous les comportements positifs qu'a ce même manipulateur. Parce qu'il peut avoir des comportements positifs et dire, là, quand tu me parles comme ça, là, j'aime bien. Là, t'as tenu ta parole. Là, j'ai bien aimé. Par contre, avec toutes tes promesses, et puis jamais rien n'arrive derrière, ça, j'aime pas, je veux plus de ça. Vous voyez, là, vous aurez quelque chose qui sera une arme que le manipulé aura à sa disposition, qui pourra lui permettre de se défendre face à la manipulation et de ramener la relation là où il veut lui, c'est-à-dire une relation équilibrée, affirmée, respectueuse des deux.
Alors j'aimerais que vous nous aidiez à bien comprendre comment se déroule un scénario manipulateur. Ça commence toujours par une accroche qui nous fait espérer quelque chose, des promesses plus ou moins explicites qui vont servir à accrocher l'autre pour que nous devenions un peu accro à la relation qui s'instaure.
Oui, bien sûr, il y a cette phase-là, idyllique, hein. Ensuite arrive.
Mais c'est sur quels ressorts fondamentaux joue celui qui manipule parce que certaines promesses du manipulateur répondent à certaines de nos attentes.
Bien sûr, le manipulateur va être très fort pour deviner ce que sont nos attentes, qui sont d'ailleurs souvent universelles. Hein. On attend tous de l'amour, de la reconnaissance, de progresser dans l'échelle sociale. Donc le manipulateur va nous faire croire qu'il va être un maillon pour nous faire améliorer notre vie et être ce qu'on voudrait toujours être et qu'on n'est pas encore pour le moment.
Et comme
donc il y a cette phase-là. Et puis arrive la phase de la promesse non tenue, hein, c'est-à-dire que pour le moment, bah, il se passe pas grand-chose. Ouais, voilà. Petit à petit, si on laisse faire, si on n'intervient pas, si le manipulé n'intervient pas, bah, le manipulateur sent qu'il est en terrain de plus en plus conquis. Donc pourquoi pas commencer d'abuser, hein, et commencer de gratter tout ce que je peux gratter. Je vais m'imposer un peu plus, je devais rester chez toi 15 jours, bah, je vais rester 2 mois, etc.
Hein. Et là, c'est le A des abus, le modèle à
le
Paris.
A hein. des abus. Tu m'avais prêté de l'argent, mais pourquoi je vais te le rendre? Tu m'as l'air d'aller bien, pourquoi toi t'es dans l'opulence, moi pas trop, pourquoi je vais te rendre cet argent? Voilà, donc on est dans les abus qui commencent. Si le manipulé commence à dire, bon, stop, 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 maintenant ça suffit quand même, là, les gens autour de moi, ils trouvent que je vais pas si bien que ça, ils me disent que t'es peut-être un PN, pervers narcissique, on m'a commencé à me dire, oh là, le manipulateur, s'il n'a pas gratté tout ce qu'il avait à gratter, va commencer de se dire, non, mais il va ruser, donc il va recommencer, R comme recommencer, les promesses. Non, mais t'as raison, finalement, je vais peut-être changer. On va repartir sur de bonnes bases. Tu es quand même la femme de ma vie. Je vais trouver du travail. Là, j'ai justement de l'argent qui va arriver. Dans quelques jours, je te rends cet argent, etc. Donc, on a le recommencement. Et puis ensuite, bah, soit tout évolue bien, pourquoi pas. Effectivement, le manipulateur change, pourquoi pas. Et, ou alors, bah, le manipulateur reste manipulateur. Et à ce moment-là, il va y avoir une issue. Mmh. Alors l'issue, ça sera soit positif, comme on vient de le dire, soit plutôt rupture, soit de la part du manipulé, soit de la part du manipulateur.
De façon pédagogique, vous appelez ce modèle à Paris.
Oui,
redonner,
dont
Odile comprenne
vient
bien.
De décrire voilà. Toutes les étapes. Donc, quand elle a commencé, elle a dit cette accroche avec les merveilles voilà. Représentantes, c'est le A de à Paris. À Paris, c'est sans S à la fin. On est à Paris, mais c'est A-P-A-R-I. Donc A, c'est l'accroche. Hein, c'est la promesse, si vous voulez, la promesse miraculeuse. R, c'est P, ce sont les promesses non tenues. Oui. Hein, quand on commence à se rendre compte que les promesses ne sont pas tenues, A, c'est l'abus qu'elle a très bien décrit. R, c'est le recommencement, la répétition. Et I, c'est l'issue.
Voilà un moyen mnémotechnique de bien comprendre ce qui se passe lors de ce scénario de manipulation. Alors, comme l'explique très bien Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois, deux psychologues sociaux, dans la soumission librement consentie, amener quelqu'un à faire en toute liberté ce qu'il doit faire est finalement moins compliqué qu'on ne le croit.
Ben oui, malheureusement, nous venons de perdre pendant le Covid Jean-Léon Beauvois. C'était deux grands chercheurs français en psychologie sociale sur ce thème qui nous ont beaucoup aidés. Effectivement, j'en ai mangé votre question, Aline. Tout le monde est imparfait. Hein.
Quelles sont les stratégies utilisées pour abaisser la confiance en soi du manipulé? Il y a quoi? Il y a la culpabilisation, le mensonge,
la minimisation,
c'est ça?
Oui, c'est ça. Tout va être fait pour abaisser le manipulé et ça tombe sur un terrain, effectivement, d'un manipulé qui parfois, souvent même, peut déjà au départ manquer de confiance en lui. Donc le manipulateur rentre dans la brèche. Donc on va beaucoup travailler d'ailleurs sur l'inversion de ces émotions négatives du manipulé pour l'amener à des émotions positives. On en parlera peut-être en modifiant ses cognitions, c'est-à-dire sa façon de se voir.
Quels sont les indices qui montrent que la relation prend une mauvaise tournure, Odile Darbon? Il y a des indices, des clignotants, des warnings qui doivent absolument nous alerter.
Sur le plan émotionnel, un sentiment, une émotion de malaise. Hein. Et puis, peut-être, si on prend un peu de recul, avec un peu de méditation, par exemple, si on laisse décanter un peu les choses, je pense qu'on va se rendre compte que cette relation, elle avait certainement un but positif qui était... le manipulé se dit j'attends cette relation qu'elle m'aide à aller dans mes valeurs et dans ce qui compte pour moi. Devenir quelqu'un de célèbre, devenir un sportif, etc. etc. Bon, être aimé, etc. Au fond, avec un peu de recul, le manipulé va se rendre compte qu'il n'est pas du tout en train d'aller dans ce qui compte pour lui. Mais comme c'est très important ce qui compte pour lui, le manipulé a beaucoup de mal à quitter un comportement parce qu'il espère aller dans ce qui compte pour lui. Donc il se dit, bon, j'ai un peu misé sur cette relation, j'ai mis un peu déjà de l'investissement affectif ou même financier, je vais quand même pas lâcher maintenant que c'est pas parce que ça paye pas maintenant, j'ai déjà misé, j'ai envie d'attendre le retour sur investissement. Donc le manipulé continue parce qu'il est mené parce qu'il espère dans sa vie ce qui compte vraiment pour lui. Et c'est ça qui peut-être aussi explique que c'est si dur pour le manipuler après la rupture, c'est qu'il a été manipulé pas que par des affects négatifs, il a été manipulé parce que c'est son espoir pour lui dans la vie.
Issu de votre clinique, est-ce que vous avez des exemples de scénarios de manipulation pour bien qu'on comprenne les choses, Frédéric Fonger, Odile Darbon?
On peut vous en prendre plusieurs, soit dans le domaine amoureux, dans le domaine professionnel,
allez-y.
Dans le domaine amical. Ben, dans le domaine amoureux, moi, ça m'arrive régulièrement de voir des femmes qui entrent dans mon cabinet en disant « Docteur, c'est mon troisième échec amoureux, j'ai vécu trois couples, les hommes sont tous des pervers narcissiques et je veux plus de couple ». Et donc, quand on leur fait raconter le scénario, j'ai un exemple qui me vient en tête, qui est assez dur, hein, mais c'est une jeune femme qui a beaucoup travaillé en thérapie, qui s'en est complètement sortie. Elle s'est mariée avec quelqu'un qui lui a donc promis monts et merveilles, je vais rapidement. Et puis, il avait... Alors, Odile parlait des valeurs. Ça, c'est très important pour comprendre que les valeurs sont communes au début. Donc, eux, ils avaient la valeur famille. Il lui a présenté, elle a dit, moi j'ai une valeur famille, je veux des enfants, etc., très développé. Il a dit, ben ça tombe bien moi aussi, parce que le manipulateur, il m'a toujours dit qu'il a la même valeur que vous, que le manipulé. Et donc, mais quand même, c'était une jeune femme qui travaillait, qui voulait continuer à travailler, et puis très vite, je vais assez vite, parce que ça a duré des années, ce sont des scénarios qui durent des années, hein, il a commencé à lui dire qu'il voulait plus qu'elle travaille, parce que, comme on avait la famille, il y avait deux enfants, il fallait s'en occuper, donc elle a arrêté son travail. Elle a été convaincue par son discours, parce que ce sont de très bons comédiens, ils sont très convaincants. Et donc, elle a arrêté son travail. Et là, à partir du moment où elle a arrêté son travail, elle m'a dit, écoutez, ça a été terrible. C'est devenu, cette relation qui était merveilleuse au début est devenue un enfer pour moi. Et il était dans une position dominante. Elle avait plus d'autonomie financière, vous voyez. Voilà, bon, alors, vous voyez un exemple. Ça s'est terminé malheureusement par une séparation.
Alors, comment distinguer une personne bienveillante d'une personne manipulatrice? Est-ce que vous pouvez nous aider? Parce que... Ça rend méfiant et un peu parano quand, depuis tout ce qu'on se dit depuis le début. Mmh. On se dit, si j'ai une personne plutôt sympathique et bienveillante, oh là là, c'est peut-être un manipulateur.
Il faut éviter la méfiance et la naïveté. C'est entre les deux, c'est plutôt une position de vigilance et d'attention.
Et je pense aussi que dans une relation durable, il va y avoir des tas d'interactions. Donc les conflits, des petites manipulations, il y en aura normalement. Bon. Par contre... Quand il y a une relation de qualité avec des gens plutôt bienveillants à la base, même s'ils ont des petits comportements agressifs ou manipulateurs au passage, dans une relation bienveillante, il y aura recadrage. C'est-à-dire que nos demandes finiront par être écoutées et entendues. Peut-être il faudra les formuler 2-3 fois, hein, mais le week-end finira par arriver, la maîtresse sera finalement remise, quittée, l'argent sera finalement rendu, etc., etc.
Marie-Laure Zonshine, Femme Actuelle.
Oui, Frédéric Fanger, en début d'émission, vous nous avez dit, nous sommes tous manipulateurs, nous sommes tous manipulés, mais nous sommes tous aussi témoins. Odile Darbon, tout à l'heure, a parlé de l'entourage. Quelle est effectivement l'importance, l'écoute à donner à l'entourage qui, lui, va percevoir quelque chose? Non, tu ne dois pas arrêter de travailler, pourquoi il te demande ça? Tu peux faire les deux, dans la sphère professionnelle, pareil. L'importance, effectivement, des proches, des amis, des collègues, eux sont une vigie, eux sont un clignotant, comme disait Ali tout à l'heure.
Oui, bien, c'est très important ce que vous dites, pour éviter de laisser le manipuler dans l'isolement. Parce que, évidemment, si le manipulé est entouré, il sera moins atteignable que s'il ne l'est pas. Et ça, le manipulateur va très vite le sentir. Ceci dit, les manipulateurs ont l'art de choisir des gens qui n'ont pas d'entourage. ou qui ont rompu avec leur entourage. J'ai beaucoup de cas cliniques, puisque vous voulez des cas cliniques, où les manipulés avaient rompu avec leur propre famille.
Claudine nous demande, pourriez-vous évoquer les demandes floues qui sont redoutables et passent inaperçues, par exemple, qu'est-ce que tu fais demain, répondant rien de spécial, je me suis retrouvé à rendre des services variés qui plombaient ma journée. Ça, c'est assez fréquent, Odile Darbon, petite manipulation du quotidien, l'air de rien.
Oui, bien sûr, pour ça que c'est très important d'apprendre à ne pas répondre trop rapidement aux demandes floues. Eh bien, de pouvoir faire repréciser les choses. Et même si on s'est un peu fait avoir, hein, il faut apprendre aux gens qu'on va tous se faire avoir, on va tous dire rien de spécial. Mmh. Bon, quand on réalise qu'on a mal répondu et qu'on n'a pas dit mais qu'est-ce que tu attends de moi précisément, on peut aussi, on a le droit de dire écoute, je m'étais engagé pour t'aider, ou tu m'as demandé ce que je faisais, j'ai dit rien, mais je ne peux pas m'engager pour ce déménagement ou pour ce week-end très loin.
Écoutons une note vocale laissée par Margot.
Bonjour, je m'appelle Margot. J'ai été élevée par un papa manipulateur. La manipulation surtout par l'argent et la réussite. Et j'ai plusieurs fois essayé de couper les ponts avec lui parce que j'arrivais pas à distinguer du vrai du faux de ce qu'il me disait. Mais je reviens toujours vers lui parce que c'est mon papa et j'aimerais savoir comment me protéger de la relation avec mon papa, tout en gardant contact avec lui. Merci.
Odile Darbon, qu'est-ce qu'on peut répondre à Margot?
Je pense qu'il faut que Margot apprenne à bien comprendre que son amour pour son papa est tout à fait légitime, que son papa est certainement une personne d'ailleurs qui a des tas de qualités, dont elle a probablement hérité aussi, mais que ça ne suppose pas de tout lui sacrifier, hein, et qu'elle doit garder son cap à elle et savoir à l'instant T dans sa vie ce qui est important pour elle.
Allez, dans quelques instants, nous évoquerons quelques méthodes qui permettent d'interrompre une relation de manipulation. Ce sera juste après la chronique Chose vue de Christophe André à 10h41.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Les choses vues de Christophe André.
Bon, alors, tu vas lui dire, mais sans lui dire que c'est moi qui te l'ai dit. Sans lui dire que ça vient de moi. Comment ça, une embrouille? Mais non, pas du tout. Au contraire, c'est pour simplifier les choses. Non, mais c'est toi qui vois des embrouilles partout. Tu serais pas un peu psychorigide? Ça vous rappelle des choses. Hein.
Ah oui.
Mais rien d'étonnant. La manipulation est fréquente dans nos vies, que nous ayons à la subir ou qu'elle vienne de nous. Car les manipulateurs, ce ne sont pas toujours les autres, bien sûr. Manipuler quelqu'un, c'est vouloir obtenir quelque chose de lui sans tout lui dire clairement, ni ce à quoi on veut l'amener, ni pourquoi on fait cela. On manipule le plus souvent par faiblesse, parce qu'on ne se sent pas assez fort pour être entendu, ou par calcul, parce qu'on veut être sûr d'obtenir ce qu'on veut, plus rarement par perversité, parce qu'on aime avoir l'ascendant sur les autres. Et il y a ainsi deux pôles extrêmes chez les manipulateurs récurrents. Le pôle des embrouilleurs, qui manipulent par peur qu'on leur dise non, parce qu'ils ne savent pas être francs ou autoritaires, et le pôle des pervers, vicelards, calculateurs, fourbes, maniganciers et autres tordus, on voit à cette richesse de vocabulaire que l'affaire ne date pas d'aujourd'hui, qui manipulent sans embarras ni culpabilité. Entre ces deux extrêmes, la vaste famille des manipulateurs occasionnels, vous et moi sans doute, qui manipulent de temps en temps, parfois inconsciemment, mais n'en font pas une stratégie répétée. On leur pardonne. Manipulare humanum est, perseverare in manipulatio diabolicum. Par exemple, que l'auditrice ou l'auditeur qui n'a jamais manipulé sentimentalement autrui dans sa jeunesse, par déni, par désir ou par amour, me jette la première pierre, ou plutôt, ça me fera moins mal, appelle le standard de France Inter.
Oh, Catalinetta bella, écoute, l'amour t'appelle, sur quoi dire non maintenant, faut profiter quand il est temps, plus tard quand tu seras vieille, tu diras baissant l'oreille, si j'avais su dans ce temps-là, ma belle Catalinetta.
Oui, c'est ça, méfie-toi, Catarinetta. Celle-là de manipulation, viens vite, ma petite, plus tard sera trop tard. Elle est un peu lourdingue et datée, de Ronsard à Tino Rossi. Mais les jeunes filles ont appris à s'en prémunir. Les techniques des manipulateurs progressent au fil des évolutions sociales. Alors, quand on se sent piégé dans une manœuvre manipulatoire, que faire? Ben, il y a au moins quatre choses. D'abord, s'écouter. Quand on nous manipule, le plus souvent, on le sent. Notre corps nous envoie des signaux d'inconfort, de stress, de détresse. Notre intuition nous dit que quelque chose ne va pas. Puis, s'affirmer, s'exprimer sur ce qu'on ressent, justement, et mettre la manipulation à plat. Tu me demandes d'intervenir à ta place, sans le dire clairement, ben, ça met mal à l'aise. Et si le mécanisme n'est pas encore clair à notre esprit, dire simplement « Non, ça ne va pas, quelque chose ne me convient pas dans cette histoire et dans ce que tu me demandes. » Troisièmement, s'attendre évidemment à une riposte accusatrice et culpabilisante, voire menaçante. « T'es pas sympa, t'es psychorigide, ça me met dans le pétrin, ça me fait de la peine, tu ne me fais pas confiance. » Quatrièmement, répondre alors simplement avec la méthode du disque rayé qui consiste à répéter son refus sans se justifier. « Non, désolé, mais je suis mal à l'aise avec ce que tu me demandes. » Puis se taire. Ne pas se justifier davantage, car le manipulateur se nourrit bien souvent de nos excuses et de tout ce que nous lui disons. Bon, on va finir quand même sur une note un peu plus joyeuse. Un éloge de l'anti-manipulation, c'est-à-dire de la sincérité. Qu'au moins, notre agacement face à la manipulation nous fasse apprécier et célébrer la franchise, même lorsqu'elle nous dérange. Parce que si la manipulation nous met mal à l'aise et que la franchise nous blesse, alors là, on est mal parti, les amis.
Les excellents conseils de Christophe André dans Les choses vues que vous pouvez podcaster, partager sur l'appli France Inter et sur l'appli Radio France. Juste après le disque, quelques méthodes concrètes qui permettent de sortir du piège de la manipulation. Ce sera juste après Malik Judy, Vertige.
Sourire au lait.
Malik Judy interprété Vertige.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
10h48, comment s'affirmer face à un manipulateur? Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000. Et nous accueillons Sandra. Bonjour Sandra, bienvenue.
Bonjour.
Bienvenue. Quel est votre témoignage Sandra?
Alors, je voudrais parler du manipulateur lorsqu'il s'agit d'un pervers narcissique. Donc là, il s'agit d'une, littéralement d'une entreprise de destruction. C'est-à-dire, si on résiste au manipulateur, il y a plusieurs étapes. Et je pense que l'étape finale, surtout lorsque ça vient d'une femme, parce que je pense que le pervers narcissique homme a plutôt recours à la violence à la dernière étape. Lorsqu'il s'agit d'une femme, ce qui est à redouter, c'est la calomnie. Donc, c'est-à-dire essayer de faire le vide pour détruire moralement celui qui a résisté à la manipulation en calomniant. Et comme on dit, calomnier, il en restera toujours quelque chose. C'est très difficile de s'opposer à la calomnie, surtout quand des gens vous tournent le dos sans un mot d'explication. Et dans ce cas-là, la seule façon de réagir avec philosophie, c'est de se dire que ça a fait un tri et que ceux qui n'ont pas eu assez confiance en vous et qui vous ont tourné le dos sans explication, finalement, on n'a rien perdu.
Alors là, on est dans le cas extrême du pervers narcissique que nous avons évoqué tout à l'heure. Odile Darbon, je rappelle que vous êtes médecin psychiatre.
Oui. Bah, je trouve que Sandra conclut très bien en disant que c'est, au fond, au moins une issue heureuse, c'est au moins de faire le tri. Hein, ça, c'est très bien. Je pense que c'est très important aussi qu'on profite, entre guillemets, bien entendu, bon, de cette expérience pour se dire qu'est-ce que j'ai espéré de cette relation et pourquoi et comment je peux maintenant essayer d'obtenir ce qui compte pour moi dans la vie, peut-être par moi-même, plus que par le fait de compter sur quelqu'un. Et peut-être, du coup, au fond, on peut se dire, je suis tellement fière d'avoir pu cesser un processus de manipulation, parce que c'est sûrement une des épreuves de la vie qu'on traversera tous un jour. Donc, au fond, plutôt que de se dire, au secours, j'ai été calomniée, cette calomnie, elle n'a de valeur que si j'y crois. Donc, bien entendu, j'aurai la trace émotionnelle qu'on ne peut pas enlever, mais on peut aussi ne pas obéir complètement à cette trace émotionnelle et se dire que ça ne veut pas dire que ce que je ressens est la vérité et de se dire je suis drôlement contente de pouvoir m'en être sortie.
Merci beaucoup Sandra de nous avoir appelé. Alors dans votre livre, vous proposez différentes techniques pour interrompre un processus manipulateur. J'aimerais qu'on s'intéresse aux solutions quand la manipulation débute. Comment on s'y prend? Est-ce que vous avez des outils pour repérer qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien dans la relation?
Il y a deux grands temps. D'abord, il faut changer notre façon de nous voir et de voir les autres et de voir notre relation. Et ça, c'est le premier temps qu'on appelle, nous, des techniques cognitives. Et le deuxième temps, c'est de s'affirmer avec des techniques comportementales d'affirmation de soi.
Par exemple, si mon nouveau voisin me prête, et c'est un exemple dans votre livre, me prête spontanément sa tondeuse à gazon, je n'ai aucune raison de la refuser, mais c'est sa décision. Je n'ai pas à me sentir redevable. Je dois rester libre de lui faire plaisir quand je le voudrais.
Exactement. Le but du jeu est d'accepter le cadeau, mais ce cadeau ne nous engage pas plus que ça. Voilà. Je ne suis pas obligée de lui prêter tous les week-ends mon grille-pain, les rollers des enfants, etc.
Parce qu'au début de la relation, il est quand même impossible de savoir s'il y a une manipulation cachée.
Oui.
C'est compliqué.
Oui, je pense qu'on va tous spontanément essayer d'avoir des relations de bon voisinage. Et les cadeaux, ça fait partie de la relation humaine. On recherche ça. Le sens de notre vie, c'est d'avoir des échanges avec les autres, donc avoir des cadeaux. Donc le manipulateur va probablement utiliser ça. Quand les cadeaux sont en sens unique et quand on passe dans la phase où parce qu'il m'a prêté sa tondeuse à gazon, il pense qu'il a le droit de m'envahir tous les week-ends avec ses coups de fil, avec des demandes, là on peut commencer de se dire il y a quelque chose qui ne va plus.
Là on a Bouvray et Joule qui nous ont beaucoup apporté avec la psychologie de la soumission et du pied dans la porte. Effectivement, quand on a commencé à accepter la tondeuse, après c'est difficile de lui fermer la porte. Je voudrais attirer l'attention des auditeurs sur le fait que les manipulateurs vont jouer beaucoup avec nos cerveaux émotionnels et en fait ils vont jouer beaucoup avec l'urgence de notre réponse. C'est-à-dire que le manipulateur, il va essayer de nous faire dire un oui très rapide. Alors, il faut là prendre du temps, prendre de la distance, soit avec de la médiation, soit en se disant, faut que je réfléchisse, et faire entrer en jeu notre cerveau intelligent, qui est notre cerveau cortical, qui lui va nous amener à repenser la demande de l'autre, repenser notre position et repenser la relation. Et c'est pour ça que on a un stade, à mon avis, obligatoire, qui est un stade de ne répondez pas trop vite, attention à vos émotions, surtout si vous avez l'impression qu'elles vous emportent, prenez de la distance et le lendemain réanalysez, et c'est là qu'on va utiliser nos techniques cognitives après.
Alors, on évoquait les compliments au tout début de l'émission. Comment distinguer un compliment sincère d'un compliment manipulateur? Comment vérifier la crédibilité de ce compliment? Il y a des questions ouvertes à poser, par exemple?
Nous avons une très bonne technique que nous vous avons volée à vous, les journalistes, que nous appelons l'enquête. L'enquête négative ou l'enquête positive. L'enquête, ça consiste à poser des questions pour faire préciser à l'autre ce qu'il veut nous dire. Si, par exemple, au début d'une rencontre amoureuse, au cours d'une soirée, vous êtes envahi de compliments à tous les niveaux, alors que la personne vous connaît depuis une heure, qu'on vous dit que vous êtes la plus belle, la plus intelligente et la plus merveilleuse qu'il ait jamais rencontrée, faudra lui dire, sur l'heure que nous venons de passer ensemble, j'aimerais que tu me précises ce que tu as trouvé de particulièrement intelligent dans ma propos, ce que tu trouves de particulièrement belle en moi.
Ça risque de refroidir un petit peu.
Ça vous fait rire parce que, effectivement, le manipulateur va être un peu refroidi et il va tout de suite se rendre compte qu'on va pas se laisser manipuler comme
et
ça.
Et donc, il est très important, de clarifier les messages flous, on l'a évoqué tout à l'heure, de bien cerner les intention réelle. Comment recadrer une relation qui devient manipulatrice? Est-ce que vous avez une technique? Je crois qu'il y a une technique dans votre livre qui s'appelle, enfin je crois, je l'ai lu, la méthode DESC. DESC comme D comme description objective de la situation, E comme exprimer ses émotions négatives, S comme solution positive et constructive, C comme conséquence positive pour moi. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette méthode DESC?
Fondamentale, cette méthode. C'est une méthode merveilleuse en affirmation de soi, qui nous permet d'exprimer à l'autre ce qui nous dérange et qui est positive à la fin, qui va lui proposer une solution positive. Si je reprends l'exemple de la chronique de Christophe tout à l'heure, où quelqu'un nous demande de faire quelque chose à sa place ou d'aller voir quelqu'un à sa place, ça va consister en 4 phrases. Donc le D, lorsque tu me demandes de faire quelque chose à ta place, très factuel, vous voyez, on s'engage pas. Le E, c'est exprimer mes émotions négatives à la première personne du singulier. Ça me gêne, ça me dérange, je me sens un peu soumis à ton autorité. Vous voyez, en jeu, pas tu me gênes, tu me déranges, parce que là, on serait agressif. Voilà, là, vous avez fait, avec le D et le E, la partie négative du reproche. Mais en affirmation de soi, on n'est pas, comme souvent en France, très négatif avec les critiques, on cherche à construire avec une critique. Donc le S et le C vont nous le permettre. Le S, c'est que je vais proposer une solution positive. J'aimerais bien que si tu as quelque chose à faire ou quelqu'un à voir, tu le fasses directement. Et tu me demandes plus de le faire à ta place. Et le C, c'est les conséquences sur mes émotions. Si l'autre accepte le changement, je me sentirai mieux.
Et tout ça avec le sourire.
Et tout ça avec le sourire.
En cas d'abus, quel est le kit d'urgence? Vous proposez dans votre livre la technique du tri sélectif. Une technique efficace face aux demandes floues d'un manipulateur. Expliquez-nous un peu cette technique qui permet de rester concentré sur le problème.
Oui, on n'a pas encore expliqué que le manipulateur arrive avec 2 messages qu'on appelle les messages masqués collés. Un message positif, donc le compliment qui vous met en avant. Mais derrière, parce qu'on n'a pas dit non plus que le manipulateur, ce qu'il caractérise, c'est l'inauthenticité. Donc derrière, il y a un message négatif qui est ce qu'il veut obtenir de vous. Donc ça, c'est important de bien le cerner, parce que souvent, on va répondre oui aux deux. Moi, je vais vous donner un exemple personnel. C'est très ancien, c'était la journée de l'Irlande dans un restaurant lyonnais où la petite serveuse, tout le monde était de l'Écosse, pardon, tout le monde était en kilt et m'amène du whisky comme ça sans que j'ai rien demandé. Et puis après je prends mon repas. Puis à la fin on me donne une petite fiche en me demandant tout mon pédigré, mon adresse, mon mail, tout ça. En fait, on voulait me faire de la publicité par derrière. Donc il fallait accepter le whisky. Elle m'a dit qu'est-ce que vous pensez du whisky? Je dis, je le trouve très bon. Et est-ce que vous avez pu remplir ma fiche? Non, je n'ai pas rempli votre fiche. J'accepte le whisky, mais je refuse de remplir la fiche.
Ça c'est le tri sélectif.
C'est au travail. On vous dit je dis à Odile, qui est ma collaboratrice. Odile, tu es vraiment une merveilleuse collaboratrice. Je sais que je peux compter sur toi. D'ailleurs, tu as très bien réalisé tous les derniers dossiers que je t'ai demandé. Ça tombe bien parce que tu vois, là, d'ici ce soir, il y aurait le dossier Martin à traiter. Je te le confie, Odile.
Oui, Frédéric, c'est vrai que je trouve que je suis quand même une très bonne collaboratrice. Je fais tout ce que je peux pour l'être. Mais malheureusement, d'ici ce soir, je ne pourrai pas faire le dossier Martin. Je ferai de mon mieux, mais je pourrai pas faire le dossier Martin ce soir.
Très très bon exemple. Autre technique face aux promesses non tenues du manipulateur, c'est la technique du refus de la balle. En d'autres termes, ne plus accepter les problèmes qui ne sont pas les nôtres.
Ça, c'est, moi, ça m'est décrit comme une technique très courante en entreprise, ça s'appelle la technique du singe aussi, où on fait porter aux autres la responsabilité qui serait la nôtre. Hein. Je te laisse voir pour le dossier Martin, et en fait, le dossier Martin, il est pas à nous, il est à quelqu'un d'autre. Donc, il faut arriver à rejeter cette... Alors, on a une balle en mousse dans les thérapies de groupe, parce qu'on fait beaucoup de thérapies de groupe, en affirmation de soi. On a une balle en mousse, et on apprend aux gens à se la lancer entre eux. Donc, mettons que je la lance à Ali, et je vais vous apprendre à mettre vos mains en avant et à me renvoyer la balle en mousse. Ce que nos patients ont beaucoup de peine à faire, parce qu'on rejoint là une technique fondamentale face à l'humiliation, qui est la technique du refus, savoir dire non. On pourra en reparler, si vous voulez.
Un mot de conclusion, en quelques mots. On arrive au terme de cette émission, Odile Darmon.
Je voudrais dire que apprendre à déjouer la manipulation, ce sera qu'on a été victime dans le passé ou qu'on n'ait pas encore été victime dans le passé. Je pense que c'est très important. Ça nous permet de nous connaître nous-mêmes et de ne plus risquer d'être humilié, abaissé par les autres.
Merci beaucoup Odile Darbon, Frédéric Fanger, Affirmez-vous face aux manipulateurs. C'est publié chez Odile Jacob et je vous le recommande. Je tiens également à remercier Victorien Thomas qui termine son stage à France Inter aujourd'hui. Encore un excellent stagiaire dans l'équipe de Grand Bien Vous Fasse. Motivé, disponible, force de proposition. Bon vent ici ou ailleurs, mon cher Victorien. Demain, comment la saga Harry Potter peut aider vos enfants et vos adolescents? Racontez-nous l'influence qu'a eu la saga de la géniale J.K. Rowling sur vous, vos enfants, petits-enfants, neveux ou nièces, dès maintenant sur l'appli France Inter.